Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Balkis Hamidou. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Notre page Facebook est Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Vous pouvez également nous joindre sur WhatsApp. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Le forum du studio Kalangou porte aujourd'hui sur le mariage des enfants au Niger, pratique coutumière et stratégie de lutte. Au Niger, le mariage des enfants reste une pratique très préoccupante. 77% des femmes de 20 à 24 ans étant mariées avant l'âge de 18 ans. À titre de comparaison, elles sont 65% au Bangladesh. Le mariage des enfants est une pratique sociale néfaste qui est courante dans de nombreux pays en difficulté. Il est devenu un obstacle à la réalisation des objectifs du développement qui sont d'éliminer la pauvreté et la faim, de parvenir à l'éducation primaire, de promouvoir l'égalité des sexes, de protéger la vie des enfants, d'améliorer la santé. Le plus souvent, les parents autorisent le mariage des enfants par nécessité économique, soit pour la dot, soit pour se soulager d'une charge. Le mariage peut également être considéré comme un moyen de mettre une fille sous la tutelle d'un homme, de la protéger d'éventuelles agressions sexuelles, d'éviter les grossesses hors mariage, d'étendre la période de procréation ou de garantir la soumission au ménage du mari. Les parents s'abritent parfois derrière l'islam. Ce sujet a fait l'objet d'un forum du studio Kalangou tout récemment. Parfois, ils prétestent la coutume ou plus largement la pression sociale. Il est difficile de mettre fin au mariage des enfants, car même les parents qui en comprennent les répercussions négatives ont parfois du mal à résister aux pressions économiques, sociales et aux traditions. Pour faire reculer cette pratique qui prive les filles de certains droits et les expose à des risques pour leur santé et celle de leurs enfants à naître, il est essentiel de changer nos mentalités. C'est dans cette logique que nous avons initié ce forum. Nous aborderons la question du mariage des enfants dans la coutume, puis nous parlerons de l'engagement des chefs traditionnels du Niger et des perspectives. Pour aborder ce vaste sujet, nous avons invité pour vous le secrétaire général de l'Association des chefs traditionnels du Niger, Amirou Albadé Alassane, chef de canton de Tagazar dans la région de Tillabéri. Bonsoir. Honorable Yalo Yahaya, chef de groupement Sassoumdroum dans la région de Zender. Bonsoir, monsieur. Et nous avons monsieur Alou Issa Aye, sociologue de formation. Alou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Nous allons revenir dans ce studio pour faire un tour de table. Monsieur le sociologue, le mariage d'enfants trouve-t-il réellement sa source dans la coutume? Sous quelle forme?
Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs. Le mariage des enfants, en vérité, il trouve sa source, selon beaucoup des analyses ou selon beaucoup d'études, dans notre conception socio-culturelle. Pourquoi j'ai dit dans notre conception socio-culturelle? Parce qu'il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de normes sociales que notre société a fait sien. Ces normes, ces valeurs, elles essaient de les transmettre de génération en génération à travers ce que nous avons l'habitude de dire un processus de socialisation. Qui dit socialisation dit intériorisation. Donc, de ses valeurs et de ses normes ou parfois des pratiques aux enfants. Eh bien, ça devient à la limite une propriété, si vous voulez, c'est ces normes lorsque la société fait sienne et elle crée les conditions pour pouvoir les transmettre de génération en génération. Or, nous savons, dans notre société ou dans notre culture, marier une fille est un acte éminemment noble. C'est vrai, pour marier une femme ou une fille, il y a un certain nombre de conditionnalités, il y a un certain nombre de normes qu'il faut respecter. Eh bien, le plus souvent, dès qu'on constate morphologiquement par parlant, la femme est mature. Donc, il y a un certain changement au niveau de son organisme. Eh bien, on pense qu'elle est disposée à être donnée en mariage. Pourtant, le développement morphologique ou physique de l'individu n'est pas forcément lié au développement psycho-intellectuel de l'individu. Pour que nous ayons un homme au complet, donc un être mature, qu'on peut considérer comme étant un majeur, donc à même de prendre un certain nombre de responsabilités, eh bien, il faut que la jonction de ces deux-là soit. Il faut que psychologiquement, l'enfant soit prêt et physiquement qu'il soit apte à prendre en charge une responsabilité, celle d'être femme ou celle d'être mari. Malheureusement, je pense que le plus souvent, notre culture ignore ces paramètres. On met beaucoup plus en avant l'aspect physiologique de la jeune fille. Dès qu'on constate que sa poitrine est en train de changer, eh bien, on pense automatiquement qu'elle est à même d'être donnée en mariage. Et le plus souvent, c'est à partir de cet âge-là que les autres familles qui prétendent vont commencer à frapper à la porte sous forme de demande. Parce qu'on pense que la fille, elle est déjà morphologiquement prête. Pourtant, il y a l'autre paramètre, comme je l'avais dit, qui est extrêmement important qu'on devrait joindre pour que véritablement la fille soit apte. Parce que être une mère, ça suppose beaucoup de choses.
Nous allons revenir. Amir Albadé, le mariage d'enfants trouve-t-il réellement sa source dans la coutume? Sous quelle forme?
Le mariage des enfants, moi j'allais dire plutôt dans la tradition que la coutume, parce que la coutume est large, mais alors que nos traditions ici sont diverses. Lui, il est chef de groupement Peul. Moi, je suis un Touareg sédentarisé qui, compte tenu de l'environnement, je suis devenu sédentaire. Nous n'avons pas les mêmes traditions. Chez nous, traditionnellement, le mariage de l'enfant, il faudrait... Je parle de ce que je connais principalement chez moi, un certain âge pour faire marier la jeune fille. Chez nous, vraiment, à partir de 12 ans, on fait marier la fille. Mais attention, on amène la fille, elle loge chez sa belle-mère. Il n'y aura pas de consommation avant un certain âge. Cela se faisait autrefois, mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas accepter ce genre de pratique. Donc, vous voyez, parce que des fois, on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha à l'âge de 9 ans. D'accord, il a épousé à l'âge de 9 ans, mais quand est-ce que vraiment avait commencé? On ne peut pas aussi se comparer au prophète. Donc, chez nous, vraiment, il y a des principes à respecter.
D'accord. Nous allons venir vers Honorable Yalou. À votre avis, le mariage d'enfants trouve-t-il réellement sa source dans la coutume? Sous quelle forme?
Merci, madame. Bonsoir, chers auditeurs du studio Klangou. Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse du sociologue qui est là en face parce qu'il a donné une définition claire et nette du concept. Je dirais tout simplement que juste une question que vous avez posée en bas. L'âge à laquelle nous, chez nous, les milieux nomades peuvent, en tout cas à l'âge de 13 ans, 14 ans déjà, on dit une telle fille d'un tel monsieur est donnée à un tel d'un tel. Voyez-vous, c'est ça en fait chez nous dans les milieux peuvent. Sinon, à l'âge de 13 ans déjà, chez nous, la femme est dotée. Sinon, c'est l'explication claire et nette que j'ai bien voulu donner, que le sociologue m'a devancé.
Monsieur Alou Aye, quelle est l'origine du mariage des enfants dans la société nigérienne?
Dans la société nigérienne, d'une manière globale, si on doit remonter l'histoire, comme l'avait dit l'honorable tout de suite, c'est que dans nos coutumes, en tout cas d'une manière globale, dans toutes les sociétés nigériennes, on le retrouve. La jeune fille, elle est donnée en mariage le plus souvent à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, si elle part, comme il l'a souligné, ce n'est pas que le mariage est consommé. Parce que tout simplement, le mariage, d'une manière culturelle, c'est d'abord une union entre deux familles. Ce n'est pas les individus, ce n'est pas le petit garçon ou la petite fille qui va décider d'être en mariage avec X ou Y. Eh bien, c'est les familles qui décident. Et lorsque on donne la fille de 12 ans ou de 13 ans en mariage, on sait que le mariage ne sera pas consommé. Et le plus souvent, les statistiques que l'on démontrait, il faut un minimum de 3 ans pour que la fille soit dans la case de son mari. Elle va loger tous les 3 ans là ou au-delà chez sa belle famille. Donc, l'idéal le plus important pour eux, c'est vraiment de sceller le mariage. Ça a une double connotation. Ça permet d'une part à la famille de la jeune fille de se libérer d'un poids social. J'ai dit d'un poids social, pas en termes économiques forcément, mais en termes d'un certain nombre de valeurs à respecter. Donc, notamment la question d'honneur. Tous tant que nous sommes, nous savons bien comment nos sœurs ont été éduquées. Il y a un certain nombre de principe. Et chaque père, son honneur serait d'amener sa fille chaste chez son mari. Donc cette question-là, elle est extrêmement importante du fait que dès qu'on constate un changement morphologique au niveau de la fille, on fait le plus souvent, très vite pour l'amener chez l'autre belle famille. L'autre belle famille, elle s'assure d'avoir une jeune fille, mais également quelque part, elle a une main d'œuvre qui est là le plus souvent pour la durée de 3-4 ans là, à assister la belle famille dans les tâches ménagères. Et en même temps, c'est une forme d'initiation parce qu'on suppose qu'à 12 ans, la fille n'a pas encore acquis tous les fondamentaux pour être véritablement une mère, mais chez la belle famille, elle va encore davantage apprendre à devenir une véritable femme après 4 ans ou 3 ans. Donc voici un peu les raisons qui expliquent que fondamentalement, c'est beaucoup plus lié à la culture. Mais c'est vrai, comme on l'a dit aujourd'hui, de nos jours, la pratique avait changé. Aujourd'hui, si vous amenez votre fille de 12 ans chez un homme, sois sûr que dans la semaine-là, le mariage sera consommé. Par conséquent, il faut fondamentalement que la conception que nous avons puisse évoluer afin que nous puissions permettre à la jeune fille d'avoir cette maturité physique et psychologique dans le foyer.
Quelles sont les raisons qui poussent les parents à donner leur enfant en mariage, surtout sans leur consentement? C'est souvent des mariages arrangés entre familles. Est-ce que c'est pour tisser des liens?
Oui, évidemment. Le plus souvent, c'est pour renforcer les liens. Comme je vous l'avais dit, le mariage, dans la conception en tout cas traditionnelle qu'on a, c'est une union entre deux familles. C'est des familles qui décident. Je sais qu'il y a certaines communautés, dont notamment les communautés Père l'Honorable est là pour confirmer. Il y a des filles qui, dès la naissance, si c'est une fille, on dit qu'elle appartiendra à un tel d'une telle famille. C'est juste pour renforcer les liens. Il faut voir le symbole. C'est véritablement pour renforcer les liens. Et nous savons, nos honorables, nos chefs traditionnels ont coutume de prendre des femmes dans les différentes ethnies ou composantes de leur société afin de raffermir les liens de solidarité de cette communauté-là. Donc, vraiment, c'est ce genre de valeur que la communauté met en avant pour donner les filles en mariage. Donc fondamentalement, c'est vraiment pour ça. Le second aspect, c'est la crainte de déshonneur parce que tous veulent avoir amené leur fille, qu'elle réponde le jour J chaste chez son mari. Ça, c'est un déshonneur capital. Mais lorsque vous imaginez que vous amenez une fille qui a déjà connu des hommes, eh bien l'honneur de la famille est atteint. Et elle risque également de compromettre les autres sœurs à elle qui vont arriver parce qu'on va dire que sa maman où son papa n'a pas su bien gérer, n'a pas su bien éduquer la fille. Par conséquent, tout le monde sera réticent par rapport à cette famille pour partir prendre une fille. Donc c'est vraiment ce combat, je vais dire, entre griffes nobles que les familles essayent de mener en donnant des fois les jeunes filles un peu tôt en mariage.
Est-ce que les coutumes favorisent le mariage des enfants? Qu'en est-il dans les différentes communautés?
Les coutumes, comme je viens de le dire, elles favorisent vraiment ce mariage des enfants. Ça, il n'y a pas à le dire. Mais il faut qu'on comprenne. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut que les choses évoluent. De nos jours, si dans le temps, voici les normes. Vous savez, vraiment, dans le temps, les gens sont beaucoup plus astreints à respecter les normes. Une fille vient dans un foyer, elle sera à côté de sa belle-mère pendant 3 ans, 4 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même circuit. Si vous amenez votre fille de 12 ans, forcément, elle sera chez son mari. Il ne va pas attendre 3 ans, 4 ans. Par conséquent, du moment où cette norme a changé, il faudrait bien que les familles initiales, autrement la famille d'origine de la jeune fille, puissent la maintenir pendant au moins 17 ans ou 18 ans avant de l'amener. En tout cas, il faut qu'elle soit physiquement apte et psychologiquement apte à contracter le mariage pour l'amener.
Est-ce à dire que les familles dans les sociétés traditionnelles protégeaient plus la fille qu'aujourd'hui?
Bon, je suis tenté de le dire. En tout cas, de par l'éducation, nous sommes en train aujourd'hui d'être influencés par le monde occidental avec le développement de tout ce que vous avez comme technologie, nouvelle technologie de l'information et de la communication qui font en sorte que la culture occidentale est en train de prendre le pas parce que les parents n'ont plus le temps d'éduquer convenablement les enfants, surtout en milieu urbain. Les gens sont pris par la recherche effrénée du gain, par la recherche effrénée du bien matériel, en oubliant les enfants. Et le plus souvent, on laisse les enfants en contact direct avec les portables, en contact direct avec la télé, en contact direct avec les radios, et Dieu seul sait ce qui se passe là-bas. Par conséquent, nous assistons à une sorte de démission des parents par rapport à l'éducation primaire de leurs enfants, l'éducation de base en temps, et c'est maintenant les médias qui sont en train de prendre le relais. Et c'est ce qui fait que nous pensons, et nous allons le dire, peut-être en haute et intelligible voix, que la société traditionnelle, en tout cas, a assuré un mécanisme qui permet de protéger beaucoup plus la jeune fille que la société moderne.
D'accord. Et nous allons revenir vers Honorable Yalo. Existe-t-il des règles coutumières qui protègent la jeune fille du mariage d'enfants?
Merci, madame. Depuis un certain temps, bien que tout à l'heure je vous disais qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, déjà c'est dans notre coutume, une fille peut être donnée en mariage. Mais depuis un certain temps, avec l'appui des organismes internationaux, nous sommes en train de lutter effectivement contre ce phénomène. Parce qu'il y va de ce que vous connaissez tous, que nous sommes avant tout parents, nous devons éduquer nos enfants avant qu'on les donne en mariage. Nous avons signé des conventions, ça je le dis sous le contrôle de l'honorable Amir Al-Badé, avec des organismes qui nous appuient dans le cadre de sensibiliser les parents pour que cette tradition soit bannie.
Pourquoi ces règles ne sont-elles pas suffisantes aujourd'hui pour empêcher ces mariages d'enfants?
Nous sommes en train de lutter pour ça, même si l'objectif n'est pas encore atteint, mais on continue.
Quels problèmes vos communautés rencontrent-elles aujourd'hui en relation avec des questions de sexualité? C'est des sujets quand même qui restent tabous, mais qu'on ne peut pas s'en passer.
On essaie tant bien que mal à gérer. Croyons, nous savons que Inch'Allah, avec le temps, ça va aller. Même si, par ailleurs, souvent, des gens sont un peu réticents. Ils disent que leur mère, leur père ont été nés comme ça. Mais il y a des questions d'actualité. En tout cas, nous sommes en train de faire pieds et mains pour changer cette mentalité. Et Inch'Allah, ça va aller.
Est-ce une grande préoccupation pour les populations et quelles sont les solutions que vous envisagez dans ce sens?
Madame, toujours dans le cadre de cette question de protocole dont je vous parlais tantôt, nous avons des stratégies propres à nous-mêmes et que nous sommes en train de les adopter pour... Et je parle sous le contrôle, comme je l'ai dit, de l'honorable Abadé. Les objectifs sont en train d'être atteints en tout cas.
Nous allons observer une pause avant de continuer. Allons aborder la deuxième partie de ce forum qui va parler du rôle des chefs dans la lutte contre le mariage des enfants. Le Niger compte 5 sultans, 238 chefs de canton et de groupement et des milliers de chefs de villages, de tribus, de quartiers répartis sur l'ensemble du territoire. Ces chefs y règlent beaucoup de litiges par la conciliation. L'Association des chefs traditionnels du Niger, qui les regroupe, est impliquée depuis 2012 dans un partenariat, comme vous l'avez dit, actif avec l'UNFBI pour sensibiliser les populations sur la santé de la reproduction, la planification familiale, le mariage précoce. 600 000 personnes sont touchées chaque année par ces activités. Honorable Al-Badé, pourquoi la CTN a-t-elle souhaité ce partenariat avec l'UNFBI?
J'allais dire même que ce n'est pas la CTN qui a souhaité, c'est plutôt le contraire. C'est l'UNFBI, le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui a souhaité avoir un partenariat avec l'Association des chefs traditionnels du Niger par rapport à ce mariage avec les enfants, au vu de ce que la CTN avait fait avec l'UNICEF dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, parce que c'est grâce à l'implication de la chefferie traditionnelle que le Niger a pu débouter la poliomyélite au Niger en 2007. Au vu de ces résultats, l'UNFPI nous a approchés pour ce partenariat, pour essayer de sensibiliser les populations afin vraiment de réduire ces pratiques de mariage des enfants qui ne répondent plus aux normes anciennes. Parce que, comme l'a dit le sociologue, parfaitement raison, aujourd'hui, nous sommes sous, j'allais dire, la pression de l'Occident. Nos enfants apprennent et laissent leur culture pour essayer de s'adapter à une culture dont on ne sait même pas d'où elle vient. Nous avons un pouvoir de conciliation. Qui dit conciliation ne dit pas règlement ou de prise de décision définitive comme la justice. Quand il y a des litiges ou quelques conflits, et pas tous les conflits,
en matière coutumière,
donc le chef concilie, mais il ne juge pas. C'est ça la différence. S'il n'arrive pas à concilier les deux parties, il dresse un procès verbal qu'il fait signer les deux parties et lui-même et envoie une copie à la justice, une autre à l'autorité administrative pour information. Le texte dit que le chef magistrat de l'ordre administratif, d'accord, ça c'est des textes qui le disent, mais dans la pratique c'est pas
ça. Ça ne se fait pas.
Oui.
D'accord. Les chefs traditionnels se trouvent-ils démunis en face de ces questions encore souvent taboues?
Non, cela dépend de la manière dont les problèmes se posent aux chefs. Sinon, si nous nous en tenons au pouvoir que nous a légué la loi 2015-01 du 13 janvier 2015, eh bien, les chefs ils se sentent plutôt renforcés dans leurs décisions.
Quel appui avez-vous reçu de l'UNFPA?
L'UNFPA, depuis 2012, comme vous le dites là, avant même 2012, l'UNFPA nous appuyait pour faire de la sensibilisation et de la mobilisation sociale pour pouvoir mener à bien, notamment dans les domaines tels que la scolarisation, la fréquentation des centres de santé, effectivement les mariages des enfants que nous appelons communément mariage précoce. C'est dans ces domaines que l'UNFPA nous appuie pour preuve. Nous avons été lauréates du prix l'UNFPA mondial où nous avons en 2016 été primés et nous avons reçu une médaille, un diplôme signé du secrétaire général des Nations Unies pour vraiment les actions de sensibilisation que nous menons auprès de nos populations afin qu'elles fréquentent, ou surtout les hommes, permettent aux femmes et aux enfants de fréquenter les centres de santé et de faire inscrire les enfants à l'école et leur maintien jusqu'à l'âge de 16 ans. Maintenant, tout dernièrement, vient de se greffer l'agression sexuelle qui aujourd'hui est un autre phénomène qui nous tient beaucoup à cœur. Parce que même dans les établissements scolaires, on constate, on nous explique certaines choses qui ne se disent pas.
Qui reste tabou.
Entre enfants, les élèves. Donc tout cela, c'est dans ce sens que l'UNFPA, chaque année, nous nous réunissons avec lui. On fait un forum et au cours de ce forum, nous préparons un programme pour l'année à venir, avec un budget que l'UNFPA nous finance.
Combien de chefs ils ont formé à ce jour?
À ce jour, vraiment, nous avons formé au moins 215 chefs, tout confondu. Chefs de canton, groupement, sultan, chefs de village, groupe tribu.
Quels sont vos projets pour continuer de progresser? Quelle forme prend votre plaidoyer au Niger?
Nous continuons pas toujours les mêmes pratiques. Disons, nous nous réunissons par région. Les bureaux au niveau de chaque région, ils se réunissent, ils font leur programme. Programme les activités qu'il faille mener, soit au niveau des groupements ou des sédentaires, pour vraiment essayer d'encourager, de sensibiliser, surtout parce que chaque année que Dieu fait, on nous donne un autre thème à développer parce qu'il faut insister également sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.
Nous allons revenir vers Honorable Yalo. Quelles sont les actions que vous menez en faveur de la lutte contre le mariage des enfants dans votre localité?
Justement, madame, c'est pour d'abord un peu compléter l'honorable Albadé et puis apporter un certain nombre d'additifs. Il faut d'abord se dire que nos pouvoirs traditionnels, nos pouvoirs sont limités, même en ce qui concerne la conciliation, parce que nous nous exerçons seulement dans le cadre coutumier, civil et commercial. En ce qui concerne le pénal, nous ne rentrons pas. Et par rapport maintenant à votre question, nous avons tous, chacun en ce qui les concerne, selon les cas, adopté un certain nombre d'orientations, un certain nombre de gymnastiques, de tactiques à pouvoir convaincre ses administrés. Faisant de ça, nous avons, comme l'a dit Albadé, nous recevons quotidiennement des appuis, soit de l'État, soit des organismes, pour que nous rentrons au fond du Niger, rencontrer nos populations. Et avec nos styles, nos langages, c'est comme un indicateur, un enseignant qui va devant ses élèves, il a sa manière de gérer.
Il y a une pédagogie qu'il faut utiliser. Quels sont les groupes cibles qui viennent dénoncer le mariage des enfants à votre niveau?
Tout le monde. Les gens, dès qu'ils rencontrent ces cas, eh bien, ils dénoncent. Et nous, on interpelle, on appelle. Je vous disais tantôt que nos pouvoirs sont limités. Nous-mêmes, ce que nous pouvons faire, c'est d'attirer l'attention. Au cas échéant, là, nous sommes obligés de nous référer.
Comment une jeune fille ou ses parents peuvent-ils saisir le chef?
Madame, rien qu'hier, moi je suis présentement animée, rien qu'hier, on m'appelle du village. Il y a une femme, effectivement, que elle, il y a celui qu'elle aime et ses parents, encore de l'autre côté, ils aiment un autre. Donc le cas s'est présenté hier seulement. J'ai dit, dans tous les cas, la femme, elle n'est même pas jeune fille, elle est jeune femme, elle s'est déjà mariée. Je me dis qu'on ne peut pas la forcer à vouloir aimer ce que ses parents veulent. Ce qu'elle, elle veut, c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on a fait hier.
N'est-ce pas intimidant pour une jeune fille de devoir s'expliquer devant une assemblée de notables, tous masculins, de tout âge?
Le monde évolue. Le monde évolue et puis nous sommes des chefs, c'est vrai. Nous sommes à la disposition de la population. Les gens ne doivent pas avoir peur. madame, on est là pour eux.
Je vais compléter dans ce sens pour vous dire que la chefferie d'aujourd'hui n'est plus comme la chefferie du XXe siècle. Au sein des chefs, il y a plus de 90% des anciens fonctionnaires de toutes catégories, donc qui s'adaptent. Et la chefferie a su s'adapter à l'évolution du monde. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, elle a cette considération auprès de sa population.
Donc les gens ne doivent pas avoir peur de se présenter devant nous. Nous sommes là pour ça. Nous avons quitté ce que nous avons à faire chacun pour rejoindre le village. Donc on s'adapte.
Êtes-vous bien outillé sur cette question de mariage d'enfants?
On est bien outillé et par conséquent, il y a un certain nombre de chefs au tout début qui ont été formés. Par après, ça a été relayé à tous les chefs, à tous les niveaux. Parce qu'au tout premier temps, M. Ravary, je crois qu'il y a une trentaine de chefs qui ont été formés. Et les 30 là ont servi de relais pour former les autres. C'est ce qui fait que tout à l'heure, M. Ravary disait, il y a au moins 215 qui ont été formés. Donc, il ne nous reste qu'une baguette, qu'un tout petit peu de chefs qui n'ont pas été encore touchés.
Et combien de cas de mariage d'enfants avez-vous traité au cours de cette année?
De cette année, madame, si je vous dis 2, 3, 4, c'est que je mens. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et on continue à sensibiliser.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Les difficultés tout à l'heure, quand, par exemple, je vous disais que nos pouvoirs sont limités. On n'a pas de pouvoir de sanction. Nous, ce que nous faisons seulement, c'est sensibiliser. Sensibiliser, si la personne n'entend pas de cette oreille, là, on est obligé de la dire ou quitter à la justice, par exemple.
Est-ce que le remboursement de la dot constitue un autre problème?
Effectivement, ça varie selon le cas. Par exemple, on ne peut pas avoir un Touareg ou un Peul ou un Hausa. Donc, chez nous, par exemple, le remboursement, on le fait au cas où c'est la femme qui demande le divorce.
Au cours de cette année, parmi les cas que vous avez traités, quel est le cas qui vous a le plus marqué?
À un moment, j'ai reçu une fille qui n'a même pas 13, 14 ans qui s'est présentée chez moi avec son copain pour dire qu'ils veulent se marier et que les parents ont refusé. Donc, les parents de la jeune fille. Alors là, j'ai appelé les parents, j'ai sensibilisé un peu, mais quelque part, j'ai compris que ses parents aussi ont raison. Parce que le monsieur qu'elle, la fille, aime prendre en mariage, ne vit même pas au Niger. Elle est ailleurs et aussi un enfant comme elle. On ne sait même pas quel travail elle fait, tout ça. Là. On a géré jusqu'à... mais madame, je vous dis chaudement, on a trouvé une solution.
Et ce
mariage n'a pas été effectué.
Monsieur Alou, nous allons revenir vers vous. Comment faire pour amener les communautés à changer de comportement?
Comment faire pour amener la communauté à changer de comportement? Je pense que c'est ce travail-là que le Fonds des Nations Unies est en train de faire avec la collaboration des chefs traditionnels. Je pense qu'il faut miser fondamentalement sur la sensibilisation, l'information, tous azimuts. Il faut communiquer avec la population. C'est vraiment un travail de fond. C'est un travail de fond qui va prendre des années. Parce que qui dit une question de mentalité parle de cette question de culture. La culture, elle fait partie de l'être humain. Parce que c'est comme je le disais tout de suite, c'est une sorte de moule. On nous a façonné dedans pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et bien pour défaire un certain nombre de choses qui ne sont pas bien, il faudrait encore prendre beaucoup des années pour amener les décideurs actuels à comprendre afin que eux, ils s'approprient la chose pour que la génération à venir puisse, elle, être moulée dans cette nouvelle optique. Donc c'est pourquoi il est vraiment extrêmement difficile, c'est vraiment un travail de fond, mais je pense que la démarche, elle est suffisamment noble parce que les chefs traditionnels ont un pouvoir extrêmement important. Moi, je pense que au-delà de ceux qui sont en train de dire que leur pouvoir est limité, mais en termes de représentativité, en termes de considération dans le milieu socio-culturel, eh bien, leur pouvoir est extrêmement grand. Lorsqu'un chef vient vers vous, il vous explique une problématique, vous acceptez. En principe, de facto, on accepte. On croit en eux parce que c'est nos représentants, c'est nos parents, parce qu'ils sont là pour la population.
Et pensez-vous que les stratégies actuelles mises en œuvre par le Niger vont permettre de faire reculer significativement le mariage des enfants?
Oui, je pense sincèrement qu'on va aboutir à un changement de mentalité, conséquemment à une réduction du taux de mariage précoce. C'est vrai, peut-être pas dans l'immédiat, comme je l'ai dit, mais vraiment, il faut peut-être que prendre quelques années. Mais ce qui est sûr, du moment où les chefs traditionnels sont impliqués, les oulimans, il faut, je ne sais pas s'ils sont impliqués dans cette démarche, si les chefs traditionnels sont impliqués, les oulimans sont impliqués, je vous assure que le résultat sera probant. Parce que c'est des personnes jusqu'à présent qui ne sont pas encore impactées par l'influence moderne et surtout par la politique. Parce que le plus souvent, cette implication politique qui fait qu'un certain nombre de considérations les gens perdent un certain nombre de crédits. Mais ces deux secteurs-là sont jusqu'à preuve de contraire, en tout cas socialement assez considérés. Et je pense qu'en les utilisant, on va amener, Inch'Allah, la population à changer de mentalité au fur et à mesure.
Est-ce que ce n'est pas la modernité plutôt que la coutume qui met en danger les jeunes filles? Êtes-vous optimiste?
En danger en termes de quoi?
De mariage.
En termes de mariage.
Exposé à la sexualité et tout.
Oui, la modernité, comme nous l'avons dit, c'est l'un des facteurs aujourd'hui qui met en danger les enfants, que ce soit la jeune fille, mais également le jeune garçon. Parce que toutes ces pratiques nouvelles que nous sommes en train de voir ne sont pas issues de notre société, ne sont pas issues de notre culture. Il n'y a aucun père de famille qui va inculquer à son enfant l'agression sexuelle. Il n'y a aucune société au Niger qui informe et qui éduque la jeune fille pour qu'elle s'expose. Donc, c'est des influences externes liées à cette modernité qui est en train d'impacter sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est plus exposée, elle est plus consommatrice de ce qui vient d'ailleurs. Et c'est véritablement le problème.
Honorable Albadé, comment agissez-vous face à des cas de résistance, si vous en avez rencontré dans votre milieu?
Bon, vous savez, comme on l'a dit, le collègue l'a dit, le sociologue l'a dit, nous, les cas de résistance, nous continuons toujours à essayer de sensibiliser nos communautés pour qu'enfin qu'ils comprennent le changement. Comme j'ai eu toujours à le dire, le comportement du XXe siècle ne sont pas aujourd'hui admis au XXIe siècle. Il y a beaucoup de choses, comme l'a dit et insisté là-dessus aujourd'hui le sociologue. Les pratiques des Occidentaux qui sont venus ici aujourd'hui, et depuis qu'ils étaient là d'ailleurs, ils ont toujours essayé de piétiner notre culture. La meilleure des solutions, parce que surtout dans cette ère de démocratie, il faut faire extrêmement attention. Nous n'avons un pouvoir que celui de la sensibilisation, être toujours avec nos populations, attirer leur attention avec des exemples concrets, comprenez? C'est la seule façon d'arriver à faire un changement de comportement. Et ce changement de comportement nous concerne tous, de nos populations au sommet d'ailleurs, si on veut vraiment que les choses aillent dans le sens où nous voudrions, il faudrait que tout le monde change le comportement. Parce que je ne peux pas venir dire à la population, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, alors que pendant que ce temps, moi je suis en train de le faire. Ça ne peut pas aller. Comme je l'ai dit, les gens prennent l'exemple sur nous. Et si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'écoute de nos populations, c'est parce qu'elles savent que tout ce que nous leur disons de ne pas faire va dans le bon sens, dans leur intérêt.
Pensez-vous que le partenariat avec l'UNFBI est suffisant pour faire reculer les choses?
En tout cas, chez nous, parce que nous l'avons constaté, comme vous venez de le dire, en 2012, que nous avions signé le grand partenariat avec l'UNFBI, les résultats sont là. Et nous pensons que si nous continuons dans le même sens, je ne sais pas que si nous allons le voir, parce que moi, avec mes 81 ans, je ne sais pas s'il me reste quelque chose pour voir les résultats de ce que nous avons fait. Mais je suis sûr et certain que nous avons la chance aussi, vraiment, d'avoir la confiance du système des Nations Unies. À titre illustratif, la dernière fois, quand la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Hajia Aminatou Mohamed, qui est une compatriote nigériane, était venue, elle nous a rendu une visite de courtoisie. Et pour ce faire, elle a demandé à l'UNFPA de renforcer le partenariat entre l'UNFPA et nous, chefs traditionnels.
Au niveau de votre canton, combien de cas de mariage d'enfants avez-vous géré cette année?
Comme je vous le disais, bien qu'on soit sédentaire, nous sommes des nomades. Mais cette pratique de 12 ans là, on commence à l'abandonner parce que dans le cadre de la sensibilisation, on donne l'exemple des femmes fistuleuses. Hein? Comme on n'est pas loin de Niamey aussi, nos parents, sœurs, femmes viennent la plupart du temps à Niamey, à l'hôpital. Elles voient c'est quoi fistule là, alors elles nous écoutent. On essaie d'échanger. Maintenant, je crois que pour cette année, moi, je pense que j'ai eu 2 cas de mariage de jeunes filles. Et surtout que ça concerne des jeunes filles élèves.
En cours de scolarité.
Oui, oui. Donc c'est pour cela que quand il y a eu, ce sont des parents qui sont venus me les signaler. Nous avons appelé les parents et comme il l'a dit, on n'a pas de pouvoir. Mais comme l'a dit le conférencier, nous avons un pouvoir mystique, j'allais dire, parce que nos populations croient en nous, nous respectent. Alors, de là, on essaie toujours par la sensibilisation faire comprendre à ces parents-là, vous êtes en train de faire du mal à cette petite. Qui sait demain si elle ne sera pas présidente de la République ? Et si elle n'a pas été à l'école ? Elle ne sera même pas manœuvre de CSI dans le village.
En plus des actions menées par l'UNFBA et les chefs traditionnels pour lutter contre le mariage des enfants au Niger, il y a des ONG nationales qui ne sont pas restées en marge de ce combat. À l'exemple de la coalition des organisations nigériennes de défense des droits des enfants CONID Niger qui a initié un plaidoyer dans ce sens. Dans cette optique, nous nous sommes entretenus avec le président de CONID Niger, M. Sidi Koumoussa, pour mieux cerner les raisons de ce plaidoyer.
Nous avons voulu initier donc cette action-là parce que le Niger, dans les réunions au niveau international, est tout le temps indexé d'être le pays qui traîne le plus fort taux de mariage d'enfants. Pour rappel, ou pour toute fin utile, je dirais ceci. Nous prenons par exemple la région de Maradi. La région de Maradi frôle les 89% de taux de mariage. C'est-à-dire que vous avez 89 filles sur 100 qui se marient avant d'avoir leurs 18 ans. Quand vous prenez la région de Zender, vous avez aussi 87 filles qui se marient sur 100 avant d'avoir leur 18 ans. Après ces deux-là, suivra la région de Tawa. Au plan national, nous sommes aujourd'hui à un taux de 76% de mariage d'enfants. Cela n'est pas admissible parce qu'il s'agit d'une question d'égalité, de droit et de chance entre les filles et les garçons. Et comme je vous l'ai dit tantôt, l'article 22 de notre constitution bannit cette pratique-là. Mieux, la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant dans son préambule dit clairement que les États parties, bien entendu, à la charte doivent, dans la mesure du possible, prendre des dispositions idoines pour décourager toutes les pratiques qui sont nuisibles aux enfants, notamment à la jeune fille. Vous voyez, nous avons initié ce plaidoyer-là. Je disais tantôt que c'est parce que le Niger a le plus fort taux au monde. Mais nous avons aussi initié ce plaidoyer-là pour que les enfants eux-mêmes comprennent que c'est une violation de leurs droits et que par conséquent, ils doivent eux-mêmes prendre la responsabilité pour qu'ils soient porteurs de leur propre plaidoyer. Troisième chose que nous avons voulu montrer, c'est de montrer que cette pratique-là n'a rien d'islamique. Et c'est pourquoi nous avons fait un argumentaire qui prend en compte certains passages du Coran, mais également qui met en lumière toutes les conséquences de cette pratique-là du point de vue de la santé de la jeune fille, mais également du point de vue, effectivement, de son statut social. J'allais dire ici, de son avenir. Parce que vous ne pouvez pas, avec plus de 51% de la population nigérienne qui est constituée de femmes, mettre toute cette partie de notre population-là sur le banc de touche et penser que le Niger allait être au rang des pays émergents. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique ce rang stationnaire de notre pays, chaque fois en termes d'indice de développement humain, nous stagnons. Parce qu'effectivement, nous avons un taux de fécondité qui est assez élevé et nous avons des pratiques culturelles et néfastes qui favorisent en partie cette pratique-là. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'attirer l'attention des pouvoirs publics nigériens et aussi de la communauté internationale sur le fait qu'il y a des violations des droits des jeunes filles dans notre pays et demander en tout cas à ce que ces partenaires-là puissent aussi influencer de tout leur poids pour que l'exécutif nigérien, le législatif nigérien puisse être conscient de ces dangers-là et prendre effectivement les mesures qui s'imposent. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, notre cri de cœur n'a pas été entendu. Bien qu'en 2017, il y a eu le décret protégeant la jeune fille en cours de scolarité, comme je l'ai toujours dit, nous aurions voulu que ce soit une loi qui va avoir en tout cas des contraintes et qui va aussi avoir en tout cas des sentences pour ceux qui vont contrevenir à cette disposition-là. Malheureusement, c'est un décret qui nous a été fourni. Et aujourd'hui, au vu en tout cas de la sécheresse financière de notre pays, je ne suis pas trop optimiste que tout ce qui est contenu dans ce décret puisse être réaliste et réalisable au vu en tout cas du niveau de mobilisation de nos ressources.
Dans le cadre de ce plaidoyer, vous avez initié des pétitions. Est-ce que le résultat a été atteint?
Le résultat a été atteint dans la mesure où des personnes ou des structures que nous n'avons jamais pensé aller signer cette pétition l'ont fait. Je parle des parlementaires. Beaucoup de parlementaires nigériens ont signé cette pétition-là. La jeunesse nigérienne a été consciente à l'échelle de toutes les régions du Niger, nous avons eu des dizaines, des dizaines, des dizaines de milliers de signatures de cette pétition-là. Mieux, au niveau international, nous avons eu des organisations internationales qui se sont joints à nous. Là où il y a peut-être l'insatisfaction, c'est véritablement au niveau des décideurs qui, nonobstant cette pétition, nonobstant tous nos cris de détresse à travers donc les médias, nonobstant tous nos écrits, mais aussi nos journées d'information souvent avec les parlementaires et avec par exemple les radios communautaires, les journalistes que vous êtes, nous avons en face de nous malheureusement des gouvernants qui ne sont pas pressés à effectivement changer la donne. Mais je me réjouis beaucoup, le 11 octobre dernier, au moment où nous célébrions la Journée internationale de la jeune fille, le Comité international des droits de l'enfant venait de publier ses observations finales par rapport à la présentation du 3e, 4e et 5e rapport qui a été produit par le Niger et présenté les 24 et 25 septembre dernier à Genève. Et dans ces observations finales que nous appelons communément des recommandations, il a été clairement dit qu'il urge à l'État du Niger d'harmoniser son cadre juridique et de cesser les violences basées sur le genre qui sont exercées sur les femmes et surtout sur la jeune fille. J'ose espérer que d'ici là, nous aurons également les recommandations du Comité africain des droits de l'enfant et du bien-être. Et ces deux observations-là, j'ose espérer que vont faire bouger les lignes et le gouvernement va prendre toutes ses responsabilités dans le sens, en tout cas, de pouvoir légiférer.
Pensez-vous que c'est possible de lutter contre le mariage des enfants au Niger?
Non seulement c'est possible, mais c'est même indispensable. Le président de la République en personne ne fait pas de cette question une question taboue. Peut-être ce qui manque, c'est le courage politique. C'est deux choses à distinguer. On a la volonté politique, mais peut-être qu'on n'a pas le courage politique. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, le pouvoir actuel a une majorité confortable à l'Assemblée pour faire voter n'importe quelle loi. Nous pensons que cela est possible. Il suffit simplement d'une petite dose de courage politique pour que les gouvernants y arrivent.
Procéder à un tour de table, honorable Albadé. Quelle stratégie pour lutter efficacement contre le mariage des enfants au Niger?
La stratégie, on l'a dit, c'est vraiment la sensibilisation, l'information. Et la sensibilisation, c'est une œuvre de longue haleine. Ça doit continuer toujours. Nous, on fait, on veut qu'après nous, peut-être que ce qu'on a fait là, on verra le résultat qu'après nous. Donc, il faut toujours continuer. Nous avons la chance que vraiment les partenaires avec qui nous travaillons ont la confiance en nous. Elles savent notre implication dans ce domaine.
Êtes-vous optimiste que ce combat va porter ses fruits?
Moi, je suis vraiment optimiste. Moi, je dis bien moi. Parce que j'ai vu la chefferie traditionnelle s'est engagée depuis 2012 auprès de l'UNP pour lutter contre cette pratique. Et je suis d'autant plus confiant parce que j'ai vu le cas de la poliomyélite. Ici, jusqu'en 2000, le Niger était parmi les pays endémiques. Mais quand l'UNICEF nous a approchés, les chefs se sont impliqués. On a fait le tour de tout ce Niger. Et c'est grâce à nous que le voisin Nigeria a accepté que l'OMS vienne intervenir pour faire la vaccination de la poliomyélite chez eux.
Honorable Yalo, quelle stratégie?
La stratégie, c'est toujours dans ce cadre de sensibilisation. C'est comme, pour ne pas se fatiguer, c'est comme un médecin au village, par exemple, avant de référer un malade, il faut qu'il se bat. Donc, on est en train de se battre, on se bat.
Pensez-vous que cette lutte va porter ses fruits?
Je suis optimiste.
Monsieur Alou?
En termes de stratégie, comme on l'avait dit et évoqué, on va cesser peut-être de le dire, c'est vraiment cette offensive tous azimuts en termes de communication, de sensibilisation de la population. Mais à côté, parallèlement, et je crois que c'est un des paramètres qu'ils ont pris en compte, c'est vraiment de créer les conditions pour que la jeune fille soit à l'école et surtout qu'elle reste à l'école. Parce que plus elle reste jusqu'à 16 ans ou 18 ans, eh bien moins il y aura de mariages précoces, moins il y aura des problèmes, des conséquences liées à des grossesses peut-être. Donc c'est vraiment cette stratégie-là qu'il faut renforcer, cette stratégie qu'il faut développer pour que dans 5 ans, dans 10 ans, nous puissions voir les résultats.
Au terme de ce forum, on peut conclure que le Niger est engagé dans une dynamique pour faire reculer le mariage des enfants. Les gardiens de la coutume, les chefs traditionnels, se trouvent paradoxalement aux premières loges des efforts déployés en faveur des droits des jeunes filles nigériennes. Ils se font les porte-flambeaux de l'adieu aux temps anciens. À la présentation, c'était Balkis Hamidou. À la technique, Abdulkader Chombiano. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangou.